Et à la une en Israël, Lise, vous le disiez tout à l'heure, eh bien, on va revenir sur le sécuritaire, bien sûr, avec votre invité.
Oui, on est en ligne ce matin avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires. Bonjour, Raphaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on commençait ce journal avec ces opérations sécuritaires des forces israéliennes ce matin à Jenin et à Naplouse. On parle de 3 morts côté palestinien et de plusieurs blessés. Ça avait l'air d'être une très grosse opération à Balata.
Oui, c'est une double opération dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse, mais aussi à Jenin. Qui a demandé probablement plusieurs semaines de préparation, car on a attaqué au moins une quinzaine de cibles différentes. Alors, en dehors des terroristes eux-mêmes, on a détruit un atelier de production d'explosifs, on a raflé des armes dans différents entrepôts, dans différentes caches d'armes, et puis donc on a appréhendé plusieurs terroristes, 3 à Naplouse, 3 à Jenin, qui étaient recherchés depuis un certain temps. Bien sûr, les troupes sont rentrées en force à Naplouse. Il y a eu pas moins de 200 soldats et 70 véhicules qui sont rentrés dans Naplouse, ce qui a évidemment ameuté les autres terroristes qui se sont empressés d'attaquer nos troupes. Ils ont été devancés sur les toits par nos propres snipers. Et donc, comme nos snipers sont arrivés avant les leurs sur les toits de la Casbah de Naplouse, eh bien, plusieurs terroristes ont été éliminés alors qu'ils tentaient évidemment d'attaquer les troupes de Tsahal en pleine opération. Donc, une fois de plus, tant à Jenin qu'à Naplouse, un sans-faute de Tsahal, du Shin Bet, avec un très très beau coup de filet, avec quand même le symptôme inquiétant que les terroristes interpellés sont des membres des brigades d'El-Aqsa et donc plutôt affiliés à l'OLP, et non, comme d'habitude, au Hamas et au djihad islamique. Il y a ici un glissement des attaques terroristes vers donc cette faction de l'OLP qui n'est plus tenue en laisse par Abu Mazen. Le président de l'autorité palestinienne a perdu en fait le contrôle des territoires de Gaza, ça fait longtemps, mais même de la Judée-Samarie et même de ses propres troupes.
Alors, les forces israéliennes étaient également à la recherche de plusieurs terroristes et notamment ceux qui ont perpétré un attentat à la voiture Bélier hier soir à Hawara. Cet endroit d'Hawara, c'est vraiment devenu une route impraticable, Raphaël.
Oui, c'est devenu aussi une sorte de symbole. Donc, on préfère frapper à Hawara aussi parce que c'est plus médiatique, c'est plus symbolique. Le problème d'Hawara, c'est qu'effectivement, il n'y a qu'une seule route, une seule rue qui traverse le bourg et que doivent emprunter chaque jour des milliers de personnes, qu'ils soient d'ailleurs palestiniennes ou israéliennes. Mais par exemple, des mères de famille vivant dans les implantations voisines de Hawara doivent se déplacer le matin avec leurs enfants pour les emmener à l'école et elles-mêmes pour aller au travail. Elles sont donc complètement exposées, surtout qu'il y a beaucoup de... C'est très congestionné. Et c'est la raison pour laquelle, autour de Hawara, mais aussi d'autres bourgs palestiniens, on est en train de construire donc des routes qui vont contourner donc ces villages pour éviter ces altercations.
Alors, selon une source arabe, il paraît que les forces israéliennes cherchaient aussi l'un des principaux terroristes de la fosse aux lions à Naplouse, Bara Aziman. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, Raphaël?
Non, pas vraiment, mais c'est de la routine. Hein. Il est dans le collimateur depuis longtemps. Il y a une longue liste de terroristes, dirons-nous, seniors, donc de terroristes avérés, qu'on recherche, certains arrivent à se cacher mieux que d'autres et ça prend plus de temps pour les appréhender. À la fin, on finit quand même par les appréhender. C'est une question de temps. Et plus ils sont recherchés, ils le savent d'ailleurs, et plus ils se cachent, bien sûr. Ils ne bougent pas, ils sont terrés quelque part. Et tant qu'ils ne bougent pas, il est extrêmement difficile de les repérer. Le seul indice, ça peut être effectivement les gens qui viennent les ravitailler, qui leur rendent visite, qui leur apportent à manger, des cigarettes, que sais-je, mais tant que quelqu'un qui se cache reste quoi, ne bouge pas et n'utilise pas son téléphone, évidemment difficile de le repérer.
Alors évidemment, dans cette opération, on a aussi confisqué des armes, notamment des fusils M16, du matériel militaire. On se demande à chaque fois, un peu naïvement, Raphaël, comment, après toutes les opérations depuis mars de l'année dernière, que les combattants de Tsahal, du Shin Bet et des Maghav font tous les jours, comment il y a encore des fusils M16 partout dans les camps de réfugiés comme Balata?
Alors, parce que d'abord, il y a un immense trafic d'armes illégales, de contrebande, qui est d'ailleurs en grande partie un trafic mafieux. Hein. Ce sont des gangsters en bonne et due forme qui exercent ce trafic, car ça rapporte pas mal d'argent. Il y a une certaine facilité à se procurer des armes au Proche-Orient, et puis il y en a parfois même qui sont carrément volées, mais c'est même arrivé dans les entrepôts de Tsahal qu'on a réussi à dévaliser. Et il y a donc énormément d'armes qui circulent, mais si vous prenez par exemple le cas de la Belgique, il y a à peu près 300 000 armes illégales en Belgique, avec un trafic d'armes constant, et la police belge a énormément de mal à stopper ce trafic et à découvrir les différentes filières et les différentes caches. C'est une plaie mondiale, donc ce trafic d'armes qui c'est le même que le trafic de la drogue, etc. Donc c'est carrément la mafia qui s'en occupe. C'est presque une affaire policière plus que sécuritaire en fin de compte.
Alors, Raphaël, sur un autre sujet, hier, le Hezbollah faisait une espèce d'opération de communication, n'est-ce pas, où ils avaient invité des journalistes pour présenter une partie de leur arsenal dans des entraînements dans plusieurs régions du sud Liban, et visiblement aussi prévu des scénarios qui impliquent l'enlèvement d'un ou de plusieurs soldats israéliens.
Oui, alors en fin de compte, ce qu'on a vu de cette manœuvre, c'est pas du tout la force du Hezbollah, car ce qui inquiète Israël dans la force du Hezbollah, ce sont les missiles et les roquettes, un immense arsenal de dizaines de milliers de missiles et de roquettes que le Hezbollah pourrait tirer sur Israël. Par contre, la manœuvre médiatisée d'hier, il y avait quand même deux, trois messages. C'est que d'abord, le chef même du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'a pas même osé pointer le nez dehors et assister lui-même à cette démonstration de force, donc il avait la trouille. Le secondo, il n'y a pas eu de provocation, bien que ce soit pas loin de la frontière avec Israël, de provocation vers Israël. On a bien évité toute escalade ou provocation, donc une crainte quand même d'affronter Tsahal. Et puis ensuite, le pathétique même de la manœuvre, à la fin du 19e siècle, Buffalo Bill venait à Paris avec des chevaux et des revolvers pour impressionner le public parisien. Ce spectacle de Buffalo Bill était bien meilleur que le spectacle du Hezbollah hier, qui était carrément pathétique, avec un arsenal plutôt ringard qui a été pas très bien utilisé, et des scènes mises en scène de combats de gens un petit peu à la ninja, avec des motos de motocross. C'était très amusant, c'était un très joli spectacle qui malheureusement n'a pas atteint l'objectif voulu. Mais bon, c'était gratuit, Buffalo Bill à Paris, il fallait payer.
D'accord. On sait néanmoins, Raphaël, que le Hezbollah possède plus de 150 000 roquettes, des drones et des munitions guidées. Donc, on s'inquiète quand même ou c'était uniquement comme ça pour la gloire?
On s'inquiète absolument. Comme je l'ai dit, la menace principale aujourd'hui sur Israël, même si l'Iran est une grande menace qui sont loin, il y a à nos portes effectivement entre 120 et 150 000 missiles et roquettes de tout calibre qui menacent Israël. Ça, c'est une immense inquiétude pour les Israéliens, avec des plans dans les tiroirs de Tsahal, évidemment, pour agir de façon très drastique si jamais le Hezbollah utilisait cet arsenal. Ce serait une attaque de grande ampleur qui concernerait tout le Liban, car nous tenons pour responsable le Liban et l'armée libanaise pour ce qui se passe au Liban. Il y a une inquiétude tout de même par rapport au terrorisme. Alors, Hassan Nasrallah, bien sûr, prétend qu'il a 100 000 combattants dans le Hezbollah. Il en a un maximum de 20 000, mais lui, il aime bien dire 100 000. Ça, c'est la dialectique habituelle de Nasrallah. Mais ces 20 000, ou c'est même un peu moins, sont dangereux dans la mesure où, effectivement, leur rêve, c'est de kidnapper des soldats de Tsahal ou de tuer une patrouille qui passe de Tsahal, qui passe près de la frontière. Et évidemment, il faut prendre ces précautions, faire extrêmement attention. Ils ont même creusé des tunnels entre le Liban et Israël à coût de millions de dollars, des tunnels pour pouvoir s'infiltrer en Israël et atteindre soit une patrouille de Tsahal, soit un kibboutz frontalier. Donc il faut quand même faire, bien qu'on se moque d'eux et qu'ils soient un peu pathétiques dans leur démonstration de force, on ne doit surtout pas les sous-estimer, car ils sont en plus des fanatiques et des gens sans foi ni loi qui sont donc extrêmement dangereux.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes écrivain, ancien officier des renseignements militaires. Une bonne journée à vous.
Bonne journée.